Hello à tous, vous écoutez Bien-être étudiant On Air, le podcast de bien-être qui parle des différentes problématiques de la vie étudiante. Nous sommes les étudiants relais santé de l'Université de Bordeaux et nous venons chaque mois vous parler de la santé mentale étudiante accompagnée d'un professionnel de santé. Chaque podcast est réalisé dans une atmosphère de bienveillance et de respect afin de vous accompagner au mieux dans un format décontracté mais toujours informatif. Allez, c'est parti!
Lors de ces podcasts, nous allons traiter des sujets pouvant être sensibles. Si vous pensez que cela peut vous heurter ou vous faire mal, préservez-vous et rejoignez-nous plutôt sur un prochain podcast. Si vous ne vous sentez pas bien ou que vous avez des problèmes, n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans une nouvelle édition des Bien-être étudiants en R,
le podcast des étudiants relais santé de l'ESE de Bordeaux qui traite des thématiques de bien-être et de santé mentale.
Aujourd'hui, on se retrouve dans les cadres du Feel Good Campus pour traiter un thème qui nous a touchés tous et qui d'ailleurs continue à nous toucher depuis l'année dernière, la vie malgré le Covid.
Mais avant de commencer, comme d'habitude, nous allons nous présenter. Donc aujourd'hui, nous sommes quatre autour de cette table.
Je m'appelle Tatiana, je suis étudiante en Master 1 Économie Internationale à l'Université de Bordeaux et je suis étudiante relais santé du pôle bien-être. Et je suis accompagnée de...
Serena, ex-étudiante en psychologie et en anthropologie et étudiante relais santé bien-être.
Marion Lenoir, je suis psychiatre au centre hospitalier Charles Perrins à Bordeaux et je consulte auprès des étudiants.
Marine Chosmich, je suis médecin généraliste à l'espace santé étudiant.
Je vous explique un petit peu qu'est-ce que les Feel Good Campus. Donc, c'est un événement organisé par l'espace santé étudiant afin de participer dans la Semaine internationale de la santé mentale. Et dans cette édition, nous traitons différents types de préjugés qui affectent les étudiants du fait de leur statut et de comment ces préjugés ont affecté notre santé mentale.
Donc aujourd'hui, le thème qui va être abordé, c'est celui du Covid, parce que même en temps de Covid, des préjugés ont pesé sur les étudiants. On a notamment entendu beaucoup parler des transgressions des règles sanitaires de par les étudiants et les jeunes en général, donc le confinement, le couvre-feu.
Donc le premier confinement a été annoncé en mars, mais quelques jours avant, lors de notre dernier cours, les profs nous ont annoncé la fermeture de l'université, qui devait durer 2 semaines. Je ne sais pas comment les autres l'ont vécu, mais moi je m'en souviens d'avoir pleuré en rentrant chez moi, me demandant qu'est-ce qui allait se passer. Qu'est-ce que être étudiant pendant la Covid ? Donc pour illustrer ceci, nous avons un témoignage d'une étudiante qui va nous raconter un petit peu son expérience.
Je m'appelle Perrine, j'ai 17 ans et je suis à Montaigne en première. Et je vais vous expliquer moi personnellement comment j'ai vécu le confinement. C'est vrai que pour moi c'était quelque chose d'assez compliqué, mais après c'est des trucs qui sont personnels. Mais moi c'était assez compliqué parce qu'on a dû renouer avec nos parents finalement et abandonner finalement le lien social qu'on avait avec nos amis. On a été éloigné pendant un certain temps et c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'on va souvent en cours, donc déjà pour travailler mais aussi pour partager des moments avec les personnes qu'on aime. Et finalement, de couper ce lien social et de rester avec notre famille, ça peut avoir des points positifs pour certaines personnes. Mais c'est vrai qu'à la fin du confinement, on avait un peu tous envie de se taper les uns sur les autres. Et ouais, on était assez soulagés que tout ça se termine et qu'on soit capable de se revoir à l'extérieur, de revivre une vie à peu près normale. C'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être positif. Pour les gens qui ont du mal à aller en cours parce que peut-être anxiété ou phobie scolaire. Mais c'est vrai que pour la plupart de mes amis, en tout cas, et pour moi-même, ça a été quelque chose de très dur de suivre les cours parce qu'on n'a pas quelqu'un pour être là derrière nous et pour nous corriger, pour nous pousser à travailler. Mais en même temps, personnellement, ça m'a vraiment permis d'apprendre des choses sur moi-même et de me rendre compte à quel point j'étais suffisante finalement toute seule et que je dépendais absolument pas des autres et que je me suffisais à moi-même. Au sujet des transgressions avec les mesures du confinement, c'est vrai que pendant le premier confinement, on était assez dans l'inconnu, on nageait dans l'inconnu et du coup, on savait pas comment prendre les mesures et du coup, on les respectait à la lettre. Mais c'est vrai que pendant le deuxième confinement, je voyais plus mes amis, on faisait des petites soirées et on se voyait parce qu'on habite tous dans le même quartier, donc c'était on se voyait peut-être avec les distances, mais après on les a vite oubliés quand même. Mais du coup, oui, je pense que tous les adolescents ont un peu réagi comme ça, c'est le ras-le-bol et le fait que notre jeunesse, elle a été gâchée, entre guillemets, par toutes ces mesures et qu'il y en a plein qui sont à la fac, qui sont en dépression parce qu'ils peuvent plus voir leurs amis et finalement, les seules choses qui les relient au monde extérieur, quoi.
Alors, avant d'aborder justement ces questions de transgression, nous allons nous appuyer sur ce témoignage pour un petit peu réinscrire les actes, ces actes de transgression dans leur contexte plus global, c'est-à-dire les faits et les effets qui se sont passés pendant les confinements,
et le couvre-feu. Le but n'est pas forcément de justifier ces actions, mais c'est vraiment de les expliquer à la lueur de ce qui a pesé sur la santé mentale des jeunes. On voulait commencer d'abord par l'isolement social.
Oui, l'isolement a pris plusieurs formes pour les étudiants. Certains ont resté chez leur famille, d'autres se sont confinés avec leurs amis. Et il y en a qui sont restés toutes seules pendant 2 mois. Et selon les confinements choisis, les étudiants ont dû faire à des différentes difficultés.
Qu'est-ce qui vous a été rapporté sur ces questions d'isolement social ?
Moi, ce que j'ai observé sur ces différentes périodes en tant que généraliste, c'est que finalement, tout ce qui fait la protection, quand on parle de santé mentale, de bien-être psychique, tout a été supprimé. Le côté social, par exemple. Et du coup, l'enjeu, à ce moment-là, il a été de savoir de trouver des stratégies un peu pour s'adapter à ça. Certains ont beaucoup investi les réseaux sociaux, avec le biais que ça peut avoir parfois d'une utilisation presque H24 du téléphone ou autre. Et puis certains ont rapidement vu que peut-être un petit peu transgresser, ça permettait quand même de trouver un équilibre de ce côté-là.
Oui, c'est sûr que pendant ce premier confinement qui nous a tous énormément surpris, on était pas vraiment prêts, non plus nous les soignants. On s'est mis à faire de la téléconsultation, ce qui était quand même mieux que rien, mais ce qui ne remplacera jamais des vrais entretiens, des vrais rendez-vous en face à face avec les étudiants et l'ensemble de nos patients. Donc c'était une mesure un peu de compensation. Quand même, tout particulièrement chez les étudiants, ce qui était très notable, c'est cette façon qu'ils avaient pendant le confinement de nous dire « mais et vous, comment ça va ?» et de se soucier de l'autre, alors qu'eux-mêmes étaient dans des situations des fois d'extrême fragilité, psychique, mais aussi physique. Certains avaient faim, académique, avec certains qui n'avaient pas encore d'ordinateur ou de téléphone portable pour suivre leurs cours. Oui, donc des étudiants, la plupart qui allaient très bien, mais d'autres effectivement qui étaient très marqués par cette perte du lien social, en fait, de la capacité. On est des êtres de relation avant tout, effectivement, donc de pouvoir être en relation.
C'est vrai que plusieurs choses nous ont été enlevées en tant qu'étudiants, donc le contact globalement, mais aussi les soirées, tout ce qui fait un petit peu la vie et les activités des jeunes. Le CROUS a mis en place des restrictions pour les visites familiales et que ça aussi, ça a participé à un isolement.
Oui, moi j'ai eu la chance de rester pendant le premier confinement avec ma famille. Mais une fois, je suis retournée dans mon appartement CROUS sur Bordeaux. Et en fait, je me suis rendue compte que plus personne ne pouvait venir me rejoindre. Ma mère, qui avait l'habitude de venir me voir les jeudis ou les vendredis, c'était plus possible. Il y avait des visites souvent, il regardait s'il y avait des matelas ou des choses. Je comprends bien, c'était la situation, mais il faut comprendre qu'il y a eu des étudiants qui ont resté pendant 2 mois enfermés dans leur appartement. Une chose qui m'a beaucoup marquée, une fois je suis retournée dans mon appartement, c'est qu'il y avait de la pénurie alimentaire dans les supermarchés de ville, ici à Pessac. Il n'y avait pas grand-chose, tout était très cher. Et du coup, j'ai dû avoir recours, mais comme beaucoup d'autres, à l'essai d'alimentaire du CROUS et sa association, parce qu'il n'y avait vraiment rien à manger. Et en plus de tout ça, il y avait la peur de revenir au supermarché. J'ai pu échanger avec d'autres étudiants qui, comme moi, ils avaient peur de ressortir. On avait été tellement enfermés à un moment donné qu'on avait du mal à ressortir, tout juste pour prendre les trams, tout juste pour voir des gens. Ça a été compliqué.
Passer ces moments-là seuls, c'est vraiment différent de les passer en famille et encore différent de les passer en colocation. Pour beaucoup, ces moments ont été difficiles parce que cette situation a été imposée. Et on n'a pas forcément choisi avec qui on a passé ces confinements et après les couvre-feux tout ce temps-là.
Oui, c'est vrai. Dans mon cas particulier, il n'y a pas eu de la transgression, comme on disait au début, parce que j'ai resté enfermée pendant 3 mois dans les domiciles familiales. Parce que dans la famille, tout le monde était des personnes à risque. Il y avait de problèmes de comorbidité, il y a de problèmes respiratoires, il y avait de maladies auto-immunes. Du coup, on s'est protégé beaucoup. Mais ça a fait aussi qu'on était dans une sorte d'hystérie collective où on entendait la télévision, on voyait personne. Et moi, en tant que jeune, ça m'a fait très mal parce que je ne voyais plus mes amis, la perte des repères, c'était difficile de suivre les cours avec la tendeuse des voisins, de tout le monde. C'était vraiment très difficile. Et puis, même le prof, parfois, il ne croyait pas qu'on avait des coupures de connexion. Il disait, on est en 2020, ce n'est pas possible que vous n'avez pas un ordinateur, un portable, ce n'est vraiment pas possible. Donc, ça a été dur. Donc je pense que tout ça, ça a mené aussi à l'isolement scolaire, en fait.
Mais quand on parlait aussi d'isolement social, c'est aussi le fait de ne plus voir des camarades de classe ou des collègues. C'est le fait de passer de journées où normalement on est quand même entouré de personnes au fait de travailler seul et de ne voir personne. Et c'est là on se rend compte aussi que c'est pas forcément uniquement nos proches qui nous manquent, mais c'est seulement le contact de voir des gens toute la journée.
Oui, parce que la fac, c'est pas seulement les cours, c'est le tram le matin pour aller à la fac, c'est les 10 minutes avant que le cours commence où on discute dans l'amphi avec les autres étudiants, c'est la queue dans la rue où de nouveau on discute, le repas dehors, la pause, café ou autre produit sain pour la santé. C'est effectivement tout ça et il vous restait souvent plus que juste le Zoom et puis l'appartement seul.
Cet isolement, cette précarité scolaire, ça s'est joué sur beaucoup de points. Donc là, on a parlé du fait de ne pas avoir de camarades, mais c'est aussi, comme tu l'as dit, le droit à la déconnexion. Le fait que beaucoup d'étudiants ont eu des cours le week-end, tard le soir, ou 10 heures de Zoom dans la journée. D'un coup, il y a beaucoup de repères qui ont été complètement abandonnés sous couvert de télétravail, ça va, c'est sympa, t'es chez toi.
Oui, et comme les informations arrivaient du jour au lendemain, il fallait rester connecté, il fallait être tout le temps sur son mail. À un moment donné, j'ai recevé des mails à n'importe quelle heure, même de l'université, qui était censé de savoir qu'on ne devait pas être connecté tout le temps. Des mails de profs qui se sont dépêchés à faire ces examens au plus vite, des examens qui ont été chronométrés. Vous avez 5 minutes pour m'envoyer cette réponse. Des examens qui nous ont été envoyés par WhatsApp, par juste partage d'écran. Vous voyez la question, vous avez 5 minutes. Et l'effet de rester 8 heures devant un écran. Puis après, pour voir ses amis, devoir être encore 1 heure, 2 heures devant l'écran, pour voir papy, mamie, la famille. À la fin, on était tellement fatigués, on se sentait comme si cet écran, c'était notre compagnie et c'était inhumain, quoi.
En fait, ce qui est compliqué aussi dans cette situation, c'est que les étudiants ont été réduits à leurs études et il n'y avait plus que ça. Et avec un seul outil qui était effectivement l'écran et il n'y avait plus que ça. Y compris pour du loisir. Hein. Enfin, on dit faites du sport. Hein. Oui, mais on va faire du sport sur YouTube, Zoom, machin. Tout. Tout a été réduit à l'écran. Avec les répercussions que ça a sur le sommeil. Je t'entendais parler du sommeil tout à l'heure. Effectivement, le fait d'être toujours devant un écran, de retarder l'heure où on va couper les écrans, ça a un gros impact sur le sommeil. Puis il y a un autre effet pervers aussi de l'écran avec la tendance à vérifier sans cesse. S'il n'y a pas un mail qui est tombé, s'il n'y a pas un cours qui a changé, s'il n'y a pas un examen qui va arriver, si tiens, un tel n'a pas répondu sur WhatsApp. En fait, on est tout le temps en train de vérifier ça. Et ça, c'est anxiogène aussi.
Et pour revenir au témoignage, dans le témoignage, on parle aussi du fait qu'il y a peu d'encadrement par les profs. Et c'est ce qui a été beaucoup noté, le fait qu'il y a eu un désinvestissement aussi par les enseignants, des cours, des étudiants, et aussi de fait des problèmes d'orientation, notamment pour ceux qui étaient au lycée et qui se sont retrouvés à devoir choisir un choix d'orientation dans le bazar collectif et sans forcément être accompagnés dans ces choix.
Oui, en plus, ce qui a été très difficile, c'est qu'on a été réduits à nos études, mais en plus de ça, nos études étaient incompatibles avec la vie collective. Parce que moi, par exemple, qui a eu la chance d'être avec des personnes, parfois, ils faisaient des apéros. Moi, je ne pouvais pas y être. Parfois, on faisait de fêtes d'anniversaire. Et ce n'était pas possible. J'avais des cours. Je mangeais en 5 minutes. Ma mère, la famille m'a vu partir avec mon assiette pour aller en cours. Et du coup, ce n'était pas possible. Donc, je comprends bien que certains étudiants ont dû transgresser un petit peu les règles pour, pas que les règles sanitaires, mais aussi les règles d'aller en cours pour avoir une vie à côté. On a dû aller un petit peu plus loin de ce qui était permis pour retrouver une vie.
C'est ce que disait Perrine. À un moment donné, elle a dit non, je ne vais pas pouvoir faire un deuxième confinement comme ça. Donc, il y a aussi un équilibre à trouver entre ses besoins personnels et la santé collective. Et il y a un moment, je crois que les étudiants, vous avez été hyper réglo sur la santé collective, vraiment, même si au départ ça a été très stigmatisant ce qui a pu se dire après le premier été. Et finalement, moi ça m'est arrivé hein, de dire à des étudiants, bon mais là, sortez, là, Autorisez-vous. Allez bosser ensemble, faites des pauses ensemble, prenez l'apéro ensemble, enfin, vivez quoi.
Ce qui était un peu injuste, c'est que les préjugés émanaient souvent de personnes qui vivaient en famille, avec des enfants, à la campagne, qui parfois aussi continuaient d'avoir une activité professionnelle en présentiel, et que nous on se retrouvait dans des 17 mètres carrés au Capucin à Bordeaux, dans des logements quasi insalubres, sans forcément de connexion internet et seuls, et que c'était nous qu'on stigmatisait parce qu'on transgressait, alors que le contexte n'avait rien à voir et que, on pourra en reparler tout à l'heure, mais on prenait aussi moins de risques puisqu'on était des personnes moins à risque.
Du Exactement. Coup,
effectivement, nous, on prenait des risques parce qu'on voyait aussi souvent que des jeunes et qu'on savait qu'on avait peu de chances de développer une forme grave comparée, par exemple, à nos parents.
Oui, moi je m'en souviens que surtout lors du 12e confinement, là quand on s'est connus les CRS, on a pu échanger en vrai, on se disait là, on est ensemble, on partage, on boit un truc, on est entre nous. Mais on savait que si on allait voir nos familles, on allait bien sûr être confinés au moins une semaine, deux semaines, on allait prendre du recul et on a beaucoup échangé par rapport à cette question. On s'est fait confiance, mais on en parlait. Il y avait une sorte de consentement. On en parlait clairement du fait que là, on se voit, mais vraiment, il faut faire attention. La semaine prochaine, je vais voir quelqu'un de fragile, où on s'est fait des PCR. Et on a beaucoup parlé avec d'autres étudiants sur les faits qu'il y avait des PCR à l'espace santé étudiant, qu'il y avait moyen de le faire de manière sûre.
En fait, il y avait des stratégies qui pouvaient être mises en place pour pallier aux obligations qui étaient imposées.
Et quand on prenait la balance coût-bénéfice, sachant que nous, c'était, on avait peu de risques, le bénéfice était forcément meilleur que de transgresser, puisqu'on ne risquait pas grand-chose pour nous. Et même pour les personnes vulnérables, il y a un moment où moi, je me suis rendu compte que ma grand-mère, bah, c'était plus important d'aller la voir, quitte à ce qu'il lui arrive quelque chose, bien qu'on prenait totalement des précautions, des masques, de la distanciation, mais là, sa santé mentale était vraiment affectée. Et il y a un moment où ça pèse plus lourd, la santé mentale était plus importante que la santé physique. Il y a un moment où cette question s'est vraiment posée de qu'est-ce que je vais privilégier ? Bah là, ça sera la santé mentale.
Et oui, il y a eu cette période où il a fallu faire des concessions. Effectivement, moi je repère quand même, il y a eu deux temps. Il y a eu ce premier temps du premier confinement où finalement l'état de santé mentale des étudiants s'est plutôt altéré, hein. Clairement, il y a beaucoup d'études qui le prouvent, mais il n'y a pas eu plus de recours à des passages à l'acte auto-agressif, aux urgences, à des choses comme ça. Et là, on a vu les choses changer pour les étudiants et aussi pour les adolescents, très jeunes adultes qui ne sont pas étudiants. C'est à l'aune de ce deuxième confinement, là, à la rentrée universitaire, à la rentrée scolaire, et à partir d'octobre-novembre, où on a vu, toutes les études à l'échelle française le montrent, une grande augmentation des recours aux urgences et des passages à l'acte et des hospitalisations pour ces adolescents et ces jeunes adultes. Là, on était dans autre chose. On était dans un discours très culpabilisant pour les étudiants. C'est de votre faute si on se reconfine. C'est vous qui avez fait n'importe quoi, qui avez fait la fête. Alors, vous aviez fait comme vous avez pu, et puis surtout, il y avait quelques fêtes, mais il y avait aussi beaucoup d'étudiants qui respectaient énormément les gestes barrières et qui étaient extrêmement sérieux. Et donc un message qui était des fois très violent. Oui, tout ce qu'on vous demande, c'est de rester chez vous. C'est pas comme les jeunes qui étaient jeunes en 14-18. Des choses qui n'ont rien à voir, des choses ultra violentes à recevoir. Je pense quand on est étudiant soi-même et quand on est dans un 9 mètres carrés tout seul depuis 3 mois. Donc il y a eu ça et puis il y a eu cette question, on parlait de précarité tout à l'heure, et d'instabilité et de difficulté de projection dans l'avenir. Finalement, le premier confinement, on avait tous l'idée qu'il allait y avoir une fin et qu'après il y aurait des lendemains meilleurs et qu'on se retrouverait tous. Et puis arrivait une période où, ce second confinement, on s'est dit que les choses allaient durer dans le temps et que vous commenciez à avoir vos perspectives d'avenir à moyen terme difficiles. Est-ce que je pourrais faire mon stage ? Est-ce que je pourrais faire mon Erasmus ? Est-ce que je vais faire la fête de Nouvel An que j'avais prévue et fêter mes 20 ans avec mes amis, celle-là, là, cette grosse fête qu'on avait organisée depuis 6 mois ? Et du coup, c'est ça, je trouve, qui a un petit peu été encore plus difficile et qui l'est encore pour vous, c'est-à-dire beaucoup de sacrifices et énormément d'instabilité et de capacité à se projeter dans 2 mois, 3 mois. Oui, vous ne saviez pas quand vous alliez avoir cours, comment allaient être vos examens, si vous alliez pouvoir faire votre stage, si vous alliez pouvoir rencontrer un date puisqu'on ne rencontre plus personne. Enfin, il y avait plein de points où c'était très incertain.
Mais c'est vrai que ce qui a fait aussi mal, c'est le fait de soi-même être dans des soucis de santé mentale parce que c'est difficile, et en plus d'avoir un discours culpabilisateur qui nous enfonçait encore plus, alors que, bah, comme ça a été dit avant, on faisait comme on pouvait.
Oui, je sais pas ce que tu en penses, Marine, mais moi j'ai surtout vu des étudiants hyper sérieux qui respectaient à la lettre les gestes barrières, des fois même un peu trop. Et quand il était de nouveau possible de ressortir un peu, de revoir un ami, bah, ils osaient plus, ils savaient plus comment se situer dans ce qu'il était possible ou pas.
Ouais, c'est un peu ce que tu disais, Tatiana, tout à l'heure. C'est que à trop s'enfermer, parfois c'est difficile de ressortir, et les confinements, déconfinements, couvre-feu. Après, on ne sait plus trop comment c'était la vie d'avant, on ne sait plus trop comment la reprendre. Et certains, ça a vraiment déclenché quelque chose de très anxieux, un fonctionnement très anxieux autour de ça.
Oui, je pense que ça a dû être encore plus dur pour les étudiants qui sont arrivés en 2020 à l'université, qui ne connaissaient personne, qui n'ont pas eu le temps de tisser des liens, encore plus s'ils ne savaient pas de lien fort avec sa famille, avec de personnes ressources autour d'eux.
Petite pensée pour les étudiants internationaux qui, eux, en plus de ça, arrivaient dans un pays nouveau, avec un fonctionnement nouveau, et se retrouvaient effectivement coincés dans leurs 9 mètres carrés, à être un peu fliqués pour savoir s'ils n'allaient pas sortir et diffuser le virus. Des gens qui dépendent aussi financièrement de leur petit boulot et qui n'ont pas pu forcément l'avoir, donc ça les a mis dans une grande insécurité financière et de logement. Et ça, ça rajoute aussi au niveau de l'anxiété et puis des sensations d'isolement.
Oui, donc finalement, c'est un petit peu compréhensible les quelques transgressions qu'on a pu observer. Au bout de 6 mois, on arrive un petit peu à la limite de notre anxiété, on arrive au bout du bout d'entendre un message culpabilisant auprès de nous, vous savez qu'à étudier, vous savez tout, vous êtes toute seule, vous savez qu'à vous contrôler, qu'à vous faire vos mieux, quoi. Et je pense que finalement, ça se comprend, ça s'entend que certains étudiants ont dû sortir, voir d'autres étudiants, des amis, des camarades, faire de petites soirées, parce qu'en plus, il y avait des stratégies. C'était pas fait de n'importe comment, c'était fait en ayant conscience du risque.
Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est que finalement, on a été face à 3 cas possibles, c'est-à-dire des jeunes qui ont transgressé, qui n'ont pas forcément fait attention, mais qui étaient arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient endurer. Mais aussi des jeunes qui ont transgressé en ayant des stratégies un petit peu de protection quand même, donc que ce soit à l'extérieur, les masques, les tests, le fait de rester, de voir systématiquement les mêmes personnes, donc en ayant quand même, en faisant attention. Et puis aussi, ne pas oublier les jeunes qui n'ont pas transgressé, parce qu'ils existent aussi, et ceux-là, on les oublie totalement.
Et il y en a beaucoup.
Et ensuite, il y a aussi le fait que, bon, il n'y a pas qu'il y ait eu du mobé dans le confinement. Il y a eu beaucoup de repli sur soi. On avait beaucoup parlé avec Serena des choses positives que l'on laissait le confinement. Le repli sur soi, le fait de se connaître mieux, le fait de devoir gérer ses émotions.
On a vu des étudiants aux ressources exceptionnelles. Mais chacun d'entre vous être capable de suivre vos cours entièrement sur Zoom, de valider vos examens en cette année si particulière, vous avez des ressources insoupçonnées.
Des façons de gérer son anxiété aussi. Vous avez appris à la gérer différemment. Vous avez mis en place des choses. Vous avez appris à vous orienter aussi pour aller trouver des personnes qui vous aident à travailler ça. Et puis, il y a aussi quelque chose dont on n'a peut-être pas trop parlé, mais il y a des élans de solidarité qui se sont mis en place sur le campus. Et ça, mine de rien, quand on parle de bien-être, de santé mentale à l'échelle de toute une population, c'est vraiment quelque chose qui est protecteur. D'activer ça, et pour la personne qui est soutenue et pour celle qui soutient.
Si vous n'êtes pas encore vacciné, faites-le, parce qu'on vous souhaite de pouvoir au maximum, effectivement, élargir votre bulle sociale.
Donc comme on vous l'a dit, ce podcast prend place au sein du Feel Good Campus. Donc on a traité aujourd'hui des préjugés en ce qui concernait les transgressions des jeunes pendant le Covid. Mais durant cet événement, on va aborder plusieurs discriminations sur plein de thèmes différents qu'on va vous laisser découvrir. Donc on espère que ça vous intéressera et que ça vous plaira.
J'espère que vous savez profiter de ce moment avec nous. Merci de nous avoir rejoints pour ces nouveaux épisodes. Et n'oubliez pas de partager, de nous laisser des commentaires, même des suggestions pour des prochains épisodes. Et on se retrouve très 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 vite.